Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Mardi 3 juin, bonsoir à tous, place à l'info, vos 3 heures quotidiennes d'actualité. C'est la session soirée, soyez les bienvenus. Et comme chaque soir, on va détailler le programme. D'abord, dans 10 minutes, Action d'Europe, qui ce soir sera en Allemagne à la rencontre des étudiants indiens. Première communauté parmi les étudiants étrangers en Allemagne. Reportage également à suivre en Irlande, où la police se sert d'un nouveau système d'intelligence artificielle pour lutter contre la criminalité. Juste après, ce sera le débat du jour, où l'on parlera ce soir des langues régionales. L'Espagne souhaite que 3 d'entre elles, le catalan, le basque, le galicien, obtiennent le statut de langue officielle dans l'Union européenne. Et ça nous amène à poser cette question. Est-ce qu'il faut favoriser les langues régionales dans le monde? Il y en a partout, aux quatre coins de la planète. À quoi servent-elles? Doivent-elles prendre plus d'importance? Et qu'est-ce que cela signifierait? Y a-t-il éventuellement des menaces? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier ce soir consacré à la montée du racisme observé en France. 18h30, temps universel Afrique Soir, première édition de ce mardi. Et puis ce soir, c'est mardi politique. À 19h10, temps universel, dans un peu plus de 2 heures. Donc l'invité sera Yann Brossa, sénateur communiste de Paris, candidat aux élections municipales de 2026. Il répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Et puis votre dernier rendez-vous de cette session soirée, le grand reportage, 19h40, temps universel. Grand reportage ce soir au Groenland, évidemment le territoire qui attire les convoitises du président américain Donald Trump, mais on va s'intéresser à la grande richesse du Groenland, c'est la pêche. Mère nourricière de ce territoire autonome, nous dira Justine Fontaine. Voilà pour le programme des 3 prochaines heures donc sur RFI. Mais pour l'heure, c'est le journal d'Adrien Delgrange à 17h de temps universel. Bonsoir Adrien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, l'Ukraine qui revendique une attaque sur le pont de Crimée.
Quelques jours après son opération inédite contre plusieurs bases aériennes militaires russes, l'Ukraine annonce cette nouvelle attaque contre le pont de Crimée. Une structure hautement stratégique et symbolique pour Moscou. En ligne d'Ukraine, nous sommes avec notre correspondante Emmanuelle Chasse. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce n'est pas la première fois que ce pont est visé, Emmanuel, par des opérations du renseignement ukrainien.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas la première fois que les forces ukrainiennes tentent de détruire ce pont, la troisième depuis 2022, troisième tentative, cette fois avec plus d'une tonne d'explosifs TNT qui a détonné dans les infrastructures sous-marines du pont, affirme le renseignement ukrainien. Et l'enjeu pour l'Ukraine, il est de taille. Ce pont, il permet l'acheminement de troupes, d'équipements lourds et de munitions de la Russie sur la péninsule de Crimée, puis tout au long de la ligne de front, sur la zone occupée dans le sud et l'est de l'Ukraine. Ukraine territoriale. Neutraliser ce pont permettrait donc d'empêcher cet acheminement d'hommes et d'équipements et pousserait les troupes russes dans l'est et dans le sud du pays à diminuer leurs attaques contre l'armée ukrainienne. Alors que la Russie qualifie cet acte de terroriste, Kiev assure avoir opéré dans les règles des lois de la guerre sans faire de victimes civiles. Et si le pont tient toujours, cette nouvelle opération montre à la Russie et aux alliés de l'Ukraine que Kiev, même après plus de 3 ans d'agression russe totale contre son territoire, peut toujours faire preuve d'initiative sur le terrain militaire.
Emmanuel Chaz, en direct d'Ukraine pour RFI. En Corée du Sud, le perdant reconnaît sa défaite. Le conservateur Kim Moon-soo a reconnu avoir perdu l'élection présidentielle d'hier. J'accepte humblement le choix du peuple. Félicitations au candidat Lee Jae-myung, vient de déclarer Monsieur Kim lors d'une brève conférence de presse à Séoul. Au Royaume-Uni, députés et associations appellent le gouvernement britannique à faire libérer immédiatement Ala Abdel Fattah, un britannico-égyptien détenu illégalement en Égypte depuis 6 ans. Et pour le sauver, Leïla Souaïf, la mère d'Allah, est en grève de la faim depuis 247 jours. La sexagénaire hospitalisée refuse tout traitement tant que le gouvernement britannique n'aura pas fait preuve de fermeté vis-à-vis du Caire. Emeline Vin, Leïla Souaïf s'est exprimée ce matin au micro de la BBC.
Après 8 mois de grève de la faim, sous perfusion, Leïla Souaïf est toujours consciente, un miracle selon sa famille, mais en danger immédiat de mort, d'une voix rauque. Épuisée, elle se dit prête à mourir dans cette interview à la BBC.
C'est quelque chose que je ne veux vraiment pas, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour qu'Allah soit libéré et pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent reprendre une vie normale. Maintenant que j'ai pris cette décision, que j'ai décidé d'affronter le régime égyptien, je ne peux plus faire machine arrière.
Leïla Souef ne recommencera à se nourrir que quand son fils Ala sera libéré, lui qui aurait dû quitter sa prison du Caire en septembre. Plusieurs députés britanniques relaient les appels à accélérer les tractations diplomatiques ainsi que Reporters sans frontières, représenté par Fiona O'Brien.
Le gouvernement pourrait restreindre les liens commerciaux avec l'Égypte, par exemple, ou modifier ses recommandations aux voyageurs, que les touristes britanniques sachent que si eux aussi sont arrêtés arbitrairement, ils ne bénéficieront d'aucune protection consulaire. Il y a un certain nombre de leviers à activer pour qu'Allah puisse rentrer.
La famille de Leïla Souef rappelle que sa vie en dépend. Le gouvernement lui assure faire de son mieux pour obtenir la libération d'Alaa Abdel Fattah. Emeline Varlandre, RFI.
La Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste Christian Théin, incarcéré en métropole, est libérable, mais le parquet s'y oppose. Les juges d'instruction parisiens chargés de l'enquête sur les émeutes mortelles de 2024 en Nouvelle-Calédonie ont ordonné il y a quelques instants la remise en liberté sous contrôle judiciaire du leader indépendantiste. Christian Théin va rester dans l'immédiat en détention. La cour d'appel de Paris devra dire prochainement si elle se range à la position des magistrats ou si elle maintient Monsieur Théin emprisonné. Venons-en aux suites des violences après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions samedi soir. Plusieurs personnes ont écopé de prison, 4 précisément, des peines de prison avec sursis allant de 2 à 4 mois pour des violences sur les forces de l'ordre. 62 autres personnes doivent être présentées à la justice dans les prochaines heures. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pourtant garant de l'indépendance de la justice, fait ce commentaire. Gérald Darmanin déplore qu'une partie des condamnations ne soit pas à la hauteur. Il propose de mettre en place plusieurs propositions pour ce type de délit, comme notamment la suppression du sursis ou encore l'instauration de peines minimales. Raphaël Delvolvé à l'Assemblée nationale. De telles mesures pourraient passer si un texte est discuté.
Il a déjà en partie convaincu le chef du gouvernement, François Bayrou, à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales.
Approbation aussi dans le socle commun chez les LR notamment, comme Olivier Marleix.
On a des jeunes en France qui cumulent jusqu'à 18 condamnations avec sursis. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils reçoivent comme message de la part de la justice ? C'est allez-y, continuez, c'est pas grave, vous pouvez recommencer.
À l'extrême droite, le RN Laurent Jacobelli y voit une victoire idéologique et la promesse de victoire électorale à venir.
Toutes les mesures, ils ont été les piocher sur notre site internet. Ça veut dire qu'on avait raison et ça veut dire qu'ils ont failli. C'est le moment de dire il faut une rupture politique en 2027.
Sans surprise, l'autre côté de l'hémicycle est vent debout. Sur les bancs les plus à gauche, l'insoumis Antoine Léaumont accuse le dispositif policier mis en place ce week-end d'avoir semé le chaos.
Chaque fois qu'il y a un problème qui est posé, on va durcir le code pénal. Peut-être qu'on peut se poser la question à l'envers, donner des dispositifs aux policiers qui leur permettent ne serait-ce que d'expliquer ce qu'ils font.
Pas de quoi décourager les proches de Gérald Darmanin malgré une assemblée fragmentée. Un chemin existe pour légiférer, selon la macroniste Maud Bréjean.
Je pense qu'il y a une majorité. En tout cas, pour ça, il faut encore une fois que le gouvernement concrétise ses propositions dans ce qui pourrait être un projet de loi.
Reste à connaître donc la décision du Premier ministre.
Sport, les internationaux de France de tennis, la terre battue de Roland-Garros, la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales, tout comme Iga Swiatek, la Polonaise, tenante du titre. Et chez les hommes, Frédéric Suto, bonsoir.
Oui, bonsoir Adrien.
Le premier qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros est un Italien.
Oui, et ce n'est pas Yannick Sinner, numéro 1 mondial, l'Italien de son état, mais qui jouera lui demain hein, son quart de finale. Il s'agit de Lorenzo Musetti, 8e mondial, qui monte en puissance depuis le début de la saison sur terre battue. Il n'avait pas perdu une manche depuis le début du tournoi en 4 matchs. Il en a abandonné une face à Francis Tiafoe, l'Américain, et ses lourdes frappes. Mais Lorenzo Musetti et sa science du jeu sur terre battue a fini par avoir le dernier mot. Hein. On a vu un Tiafoe abuser des amortis et il n'avait plus la caisse pour courir avec ses rallyes que lui imposait Lorenzo Musetti, qui a atteint tout de même cette année la finale du tournoi de Monte Carlo. Il avait été battu par Carlos Alcaraz, qu'il pourrait peut-être trouver en demi-finale. Alcaraz sera tout à l'heure sur le central, session nocturne, pour son quart de finale.
Frédéric Suto à Roland-Garros pour RFI. Ainsi se referme ce journal. Des infos à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr.